Nous c'est donc bien revenu, voilà, petite coupure internet réparée. Donc voilà, donc je reprends là où nous étions, voilà, pour notre suite. Donc voilà, vous avez compris, vers Ayarden, cet endroit qui s'appelle l'autre côté du Jourdain. Alors vous aurez compris, donc Moshe Rabbeinu, et à la question que tout le monde pose, est-ce qu'il est rentré en Israël? Eh bien, la réponse est, ça dépend. Ça dépend de comment vous concevez Eretz Israël. Pour ceux qui pensent qu'il s'agit de Eretz Kenaan, eh bien, à ce moment-là, Eretz Kenaan, Moshe n'est pas rentré en Eretz Kenaan. Les frontières de Eretz Kenaan sont très simples. C'est un espèce de rectangle. La frontière sud étant la limitation, pour tracer une ligne imaginaire comme ça, entre Be'er Sheva et Dimona. La frontière ouest, c'est la bande côtière. La frontière est, eh bien, c'est le Jourdain. Et la frontière nord, c'est plus ou moins le fleuve du Litani, à peu près 40 km au nord de la frontière libanaise actuelle. Donc dans ce rectangle-là, Moshe n'est pas rentré. Par contre, il y a une autre terre qui s'appelle Haaretz Hazot, et dans cette terre-là, Haaretz Hazot, qui est beaucoup plus grande, qui a des frontières qui vont depuis le delta du Nil jusqu'à l'Euphrate, englobant donc eh bien tout le désert du Sinaï, englobant donc évidemment tout ce qui est la Jordanie actuelle, une partie de l'Arabie Saoudite, l'Irak, pour arriver jusqu'au Antipatros, qui est dans la frontière syro-turque actuelle, et donc dans cette terre-là qui s'appelle Eretz Israël, Haaretz Hazot, eh bien évidemment, Moshe Rabbeinu est rentré là-bas. Donc, Moshe est celui qui a conquis le Golan. Vous comprenez que à la fin de la Torah, eh bien, le peuple d'Israël a une place énorme dans la géopolitique de la région, puisque ayant décimé les rois qui étaient Sichon et Og, qui étaient considérés comme étant des grands rois de cette époque-là, donc grand roi qui veut dire grand roi veut dire également ben, une grande puissance militaire et géopolitique, eh bien, vous comprenez qu'un Israël devient un acteur principal de cette région. Dans la page de Rougat, il y a un combat et des prises de villes cananéennes. Amalek, d'après Rashi, les Bnei Israël ont-ils franchi les frontières de Canaan avec Moshe à ce moment-là? Eh bien non. Tu parles des combats qui ont opposé le peuple juif au Melech Arad. Vous voyez, à Kedani Melech Arad, qui serait venu faire la guerre contre Israël. Eh bien, ce n'est pas un combat qui s'est passé à l'époque de Moshe, c'est un combat qui va se passer à l'époque de Yehoshua. C'est-à-dire qu'il va y avoir une incursion cananéenne chez les Béné Israël qui ne sont pas encore en Canaan. Cette incursion va être vite balayée, mais le combat sur les terres de Knaani Melech Arad seront faits avec Yehoshua. Donc, à ce moment-là, Israël rentre en Israël. Rentre en Israël et son camp de base, sa capitale, si vous voulez, dans un premier temps, sera bas Gilgal. Alors, c'est où Gilgal? Eh bien, Gilgal, c'est une zone géographique qui est située entre Yericho et le début de ce qu'on appelle aujourd'hui comment s'appelle en français Bikat Hayarden, la vallée du Jourdain. On est sur les 20 premiers kilomètres de la route 90 quand on tourne de la route numéro 1 qui va vers la mer Morte et qu'on tourne vers le nord, eh bien c'est à cet endroit-là que se trouve Agilgal. OK? Et dans cet endroit-là, eh bien ça va être la capitale de Yehoshua, successeur de Moshe, qui va en faire son camp de base pour lancer la conquête de la terre d'Israël. Car c'est bien de cela qu'on parle. La conquête de la terre d'Israël. Alors à ce moment-là, eh bien, le Mishkan va être déposé, si je puis dire, à Gilgal, et va rester dans cet endroit-là durant 14 ans. Pendant 14 ans, le Mishkan se trouve à Gilgal, et c'est donc la capitale, si on peut dire, de cet état d'Israël en devenir. Et commence à ce moment-là le livre de Yehoshua avec les conquêtes de Yehoshua. Et là, 11 chapitres, les 11 premiers chapitres du livre de Yehoshua parlent de la conquête d'Eretz Israël. À dire vrai, non, puisque la conquête commence véritablement au chapitre 7. Donc il y a en vérité 4 voire 5 chapitres qui parlent de la conquête de la terre d'Israël par Yehoshua. Cette conquête, eh bien, elle est au niveau stratégique extrêmement logique. C'est-à-dire qu'on va pénétrer à l'intérieur des terres, prendre le centre de la région montagneuse pour pouvoir ensuite partir au nord et au sud, ou au sud et au nord. comprenez-moi bien, la terre d'Israël, eh bien, si on veut comprendre la géopolitique de cet endroit-là et de cette région-là, et des différentes peuplades qui la composent, eh bien, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un plateau, c'est pas le plat pays, c'est pas la Belgique. Nous avons, eh bien, une zone qui est avec une chaîne de montagnes au milieu, qu'on appelait Aré Hebron au sud, Aré Yerushalayim au centre, et Aré Shomron, Aré Yehuda au centre, et Aré Shomron plus au nord, qui sont entourés partout, c'est-à-dire et sur l'est, et sur l'ouest, et au nord, et au sud, par des régions beaucoup plus pleines, en mode plaine, voire vallée. À l'est, il y a la vallée du Jourdain. À l'ouest, il y a la bande côtière qui est une plaine, qui s'appelle Michor Achof. Et au nord, la plaine qui s'appelle ben, la Basse Galilée. Et au sud, il y a le désert du Negev. Certes, ce n'est pas vraiment une plaine, mais ce n'est pas non plus un endroit qui a une grande, un grand intérêt géostratégique, puisque c'est un désert et que les gens n'y habitent pas vraiment. Donc, lorsqu'on rentre dans Eretz Israël par Jéricho, donc à l'entrée de la vallée du Jourdain, la première chose à faire, c'est évidemment de prendre la ville de Jéricho. Pourquoi prendre la ville de Jéricho ? Car c'est une ville charnière. C'est une ville charnière au niveau de la géopolitique de l'époque, puisqu'elle est au centre de ce que nous, on appelle Eretz Israël en grand, c'est-à-dire et l'Est et l'Ouest du Jourdain. Mais il faut comprendre que pour l'époque, Jéricho, eh bien, c'est une ville au centre de ce qui est la vallée la plus fertile de l'endroit. Donc, prendre Jéricho, c'est la base si tu veux avoir une domination politique sur cette région-là. Et donc, la première guerre sera celle de Jéricho. Ensuite, on va monter un petit peu à Haï, mais c'est plus ou moins dans la même région. On rentre dans ce qu'on appelle Eretz Binyamin aujourd'hui. Et ensuite, eh bien, va pouvoir commencer les premiers combats de la région de Binyamin. Vont arriver les rois du Sud qui vont épauler le roi de Jérusalem, Jérusalem qui est dans la région de Binyamin, qui est une région dominée par le Jébuséen, Yévoussi, qui est l'un des peuples cananéens. Eh bien, les rois de la région, c'est-à-dire les rois de Hébron, les rois de Yatir et tout ça, vont venir avec le roi de Jérusalem, cinq rois du sud qui vont faire la guerre à Israël. C'est un combat qui va être gagné évidemment par Yéhoshua, qui aura donc sa mainmise sur toute la région de la Judée, de la région de Binyamin et de la Judée, et finalement, eh bien, il va pouvoir monter vers le nord et commencer ses combats dans ce qui est le Shomron et surtout, on va dire, la base Galilée, Megiddo, toute la région du nord du Shomron en fait, du nord du Shomron pour arriver vers la base Galilée. Eh bien, à ce moment-là, Yehoshua a mis 7 ans pour dominer les peuples de la montagne. Je dis bien les peuples de la montagne parce que finalement, les peuples de la bande côtière, qui sont principalement les peuples philistins, eh bien, on voit que Yehoshua ne va pas véritablement les soumettre eux. Et ça, ce sera quelque chose qu'on va devoir évoquer dans le livre de Shoftim. Quoi qu'il en soit, à la fin des 7 années de conquête de Yehoshua, on peut dire que le pays de Canaan, c'est-à-dire toute la bande de la chaîne montagneuse, depuis le nord du Shomron jusqu'au sud de la Judée, eh bien, est sous domination politique de Yehoshua de Amisraël. Il faudra encore 7 ans au peuple juif pour s'implanter dans ces régions-là, s'implanter chaque tribu à l'endroit qui lui a été, eh bien, donné par Akadosh Baruch Hu, par le Goral, évidemment. Et je vais vous montrer, donc, je vais vous montrer tout de suite la géopolitique de la Itnachalut, c'est-à-dire, voilà, je vous montre la carte pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà, je la montre ici, je vais la laisser comme ça à l'écran. J'espère qu'on peut voir un petit peu, sinon je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà. Voilà la carte de la Itnachalut. C'est-à-dire, nous avons ici 12 tribus qui vont donc devoir tout simplement coexister. Enfin, je dis bien coexister parce qu'il n'y a pas véritablement de notion de Am Israël en tant qu'entité politique. À ce moment-là, on vit encore de manière très, très, très tribale. Alors, ici, alors c'est un petit peu à l'envers puisque je montre l'écran, mais nous sommes de l'autre côté du Jourdain, donc sur ce qu'on appelle Ever HaYarden. Les trois tribus que vous pouvez y voir sont la tribu de Réhouven, la tribu de Gad, en vert, et la tribu de Ménaché. Ces trois zones-là sont les zones conquises par Moshe Rabbeinu. Et de l'autre côté du Jourdain, eh bien, sur le côté ouest du Jourdain, vous avez donc les neuf tribus qui restent. En vérité, neuf et demi, puisque la tribu de Ménaché est positionnée sur les deux rives du Jourdain pour faire la jonction, pour que un des côtés ne soit pas détaché de l'autre côté, que le peuple juif reste le peuple juif. Vous pouvez voir en bas la grande tribu de Yehuda qui va avoir sa domination sur le Néguev jusqu'à Jérusalem. Tribu de Binyamin en bleu petit, comme ça ici. Voilà, je vois si. Là. Et ensuite, vous avez la tribu de Ephraïm, ici en blanc, plus ou moins. Je vois qu'il y a beaucoup de contre-jours. Je vais essayer. Voilà. Peut-être que comme ça sera plus facile. Hop là. Voilà. Là, c'est mieux. Yofi. Donc, la tribu de Ephraïm en blanc. Vous avez ensuite la tribu de Dan, qui est dans la région de Tel Aviv. Vous allez me dire, mais Dan, je croyais qu'ils étaient dans le nord. Eh bien, non. Au début, Dan est dans la région de Tel Aviv. C'est pour ça que bah, toute la région de Tel Aviv s'appelle aujourd'hui le Gush Dan. Eh oui. Donc, Ephraïm, Ménaché, et ensuite, nous avons les tribus du nord. Alors, les tribus du nord, qui sont-ils? Eh bien, Issachar, Zevouloun, Naphtali et Asher. Donc, Issachar, vous avez en rouge, Zevouloun en violet, et Asher, Naphtali en vert et respectivement en orange. Ce qui est très intéressant, c'est que la tribu de Zevouloun, qu'on connaît toujours comme étant la tribu de la bande côtière, eh bien, n'a pas en vérité de frontière avec la mer. La tribu de Zevouloun n'est pas sur le littoral. C'est une tribu qui va se spécialiser dans le commerce maritime, mais elle n'est pas basée sur le littoral. Elle va toujours être en contact avec son frère Asher pour pouvoir prendre le large et aller voguer dans les différentes contrées. Donc voilà. Voilà la situation du peuple juif à ce moment-là. La capitale d'Israël sous Yehoshua n'est autre que Gilgal pendant ces 14 années. Et lors de la mort de Yehoshua, nous rentrerons donc dans une nouvelle époque, l'époque où en fait le destin n'est pas le destin collectif du peuple juif, mais c'est un destin de tribu en tribu, et c'est le propos du livre de Shoftim que nous verrons la semaine prochaine. Shavua Tov Lekoulam.